Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allée.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allée.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouvelle chronique de l'ALEP. Après quelques temps d'absence, nous sommes de retour avec Muriel Duguay qui vient nous parler aujourd'hui du Festival Nature qui se déroule du 17 au 21 mai. C'est bien ça Muriel ?
Voilà, c'est ça, c'est la fête de la nature.
Voilà, donc tu es venue, tu n'es pas toute seule aujourd'hui, tu es venue avec Sébastien Cabanne, c'est ça ?
Oui, bonjour.
Super, je te laisse peut-être présenter notre invité aujourd'hui.
Voilà, alors je vais le laisser se présenter lui-même, il le fera très bien, mais c'est juste pour replacer le contexte en fait. Donc la fête de la nature se déroule chaque année aux alentours du 22 mai depuis 2007 et ça a été c'est une fête qui a été créée à l'initiative du Comité français de l'Union internationale de conservation de la nature et du magazine Terre sauvage, avec pour l'objectif de célébrer la nature chaque année. Et donc, ça veut dire concrètement, chaque année, des milliers de manifestations gratuites pour faire découvrir les richesses de la nature partout en France. Dans ce cadre-là, avec un partenariat en plus avec la Fredon. La Fredon, c'est un organisme qui est au service de la santé des végétaux et de la protection de l'environnement. Et dans le cadre des plans zéro phyto, donc l'idée des plans zéro phyto, c'est de limiter l'usage des pesticides au maximum. Tout ça fait que le réel et les structures adhérentes proposent trois animations amandes le 20 mai sur la thématique des super pouvoirs de la nature. Et dans ce cadre-là, Sébastien Cabanne propose une animation à 14h30 sur le fabuleux pouvoir auto-épurateur de la rivière. Alors qu'est-ce que c'est ? On va en parler, mais peut-être Sébastien, si tu veux te présenter.
Oui, tout à fait. Donc, je suis moniteur guide de pêche, mais au-delà de mon activité d'enseignement technique de la pêche, je suis aussi un amoureux des milieux aquatiques et j'essaye tant que possible d'avoir un regard vigilant sur la qualité et la protection de ces milieux, voilà, que j'essaye de partager à différents publics. Les jeunes auprès des écoles, des lycées, mais aussi du grand public, comme ça va être l'occasion durant la fête de la nature. Voilà. Donc je suis également membre de la compagnie des moniteurs guides de pêche de Lozère. Voilà. Donc on est une petite dizaine de professionnels répartis un petit peu sous le département à mener ce genre d'activité.
D'accord. Donc la pêche, c'est aussi un outil d'éducation à l'environnement.
Il me semble tout à fait que la pêche, et notamment je pratique essentiellement la pêche à la mouche, qui est une discipline à la fois sportive, mais aussi avec un fort côté environnemental, qui nous amène à avoir un regard, notamment un petit peu d'entomologiste, hein, c'est-à-dire de, sans être des spécialistes, apprendre à connaître le monde des insectes aquatiques. Et donc, comprendre aussi l'ensemble du bassin versant, du fonctionnement de cet écosystème si complexe, qui a vraiment besoin d'un certain équilibre pour pouvoir fonctionner et qui est extrêmement fragile. Voilà.
Ok. Alors, le fabuleux pouvoir auto-épurateur de la rivière, qu'est-ce que c'est ? La rivière a des super-pouvoirs ?
La rivière a quelque part un super-pouvoir qui, effectivement, va lui permettre de digérer, d'absorber, dans une certaine mesure, certains types de pollution, et en particulier les pollutions dites par matière organique. En fait, la rivière va à la fois avoir un travail physique, où cette matière est en partie dissoute par la quantité d'eau, et surtout par un travail de filtration dans le gravier, les sous-écoulements qui vont avoir lieu. Mais encore plus extraordinaire, c'est la participation à la dégradation de cette pollution de la vie aquatique elle-même qui va en partie consommer et digérer la matière organique présente dans le cours d'eau.
Et d'où vient la pollution par matière organique ?
Alors la matière organique, c'est tout à fait naturel. C'est ce qui résulte en fait de la décomposition des êtres vivants, qu'ils soient animaux ou végétaux. C'est également les rejets de ces êtres vivants, notamment leurs excréments. Et puis, l'activité humaine va venir renforcer parfois la production de matières organiques, notamment à travers, par exemple, des entreprises agroalimentaires que nous avons sur notre territoire, comme des laiteries ou des abattoirs. Les matières qui en résultent sont de la matière organique.
Ok, donc un peu comme Batman et Robin veillent sur leur ville, la rivière a ses propres super-héros qui agissent dans cet écosystème. Donc comment ça se passe exactement ?
Alors en fait, l'écosystème va être capable de transformer et d'éliminer tout ou en partie cette pollution. D'abord, dans un premier lieu, grâce à l'oxygène. L'oxygène est un élément important qui va permettre en fait l'oxydation des matières organiques pour les métamorphoser en matière minérale. Ensuite viennent participer différents organismes vivants qui vont consommer justement ces minéraux présents en surplus dans la rivière.
D'accord. Donc il y a des êtres vivants qui ont différentes mission propre dans ce processus-là ? Est-ce qu'ils interviennent à différents stades ?
Oui, tout à fait. En fait, si nous parlons par exemple d'un rejet à la sortie d'un égout, on va avoir un premier tronçon de rivière fortement dégradé dans lequel sont essentiellement présents des bactéries cachées entre les graviers de la rivière et qui vont jouer certainement le rôle le plus important dans la dégradation de la matière organique. Mais on va également trouver énormément de phytoplancton ou de zooplancton, des champignons. Et il faut également penser aux êtres végétaux, que sont les algues, ainsi que les phytoplancton.
Ok. Et du coup, est-ce que après on a des animaux qui interviennent ?
Un petit peu plus bas, en fait, en général, après le travail des bactéries, vont commencer à pouvoir apparaître des vers de type tubifex, des sangsues, certes, donc des petites bêtes un petit peu répugnantes, mais qui vont jouer un petit peu le rôle d'éboueur du cours d'eau et commencer un petit peu à digérer tout cela.
Voilà, répugnante mais utile.
Répugnante mais utile. Progressivement, vont apparaître d'autres bêtes, notamment quelques crustacés, donc les gamars, une petite crevette d'eau douce qui supporte relativement bien la présence de taux importants de matière organique, et puis toute une cohorte d'insectes. Donc dans les eaux quelque peu polluées, on trouve essentiellement de toutes petites larves de diptères qu'on appelle les chironomes, ainsi que les simulies. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, en fait, ce sont des cousins des moustiques.
Ok, donc des larves de mouches et de moustiques, au final, ont elles aussi leur intérêt.
Tout à fait.
Ok.
Enfin, progressivement, on va retrouver encore d'autres insectes plus inféodés aux milieux aquatiques et qui vont être déjà signes d'une amélioration de la qualité de l'eau. En particulier, donc, les trichoptères. Et puis, quand, au bout de quelques kilomètres, le travail d'auto-épuration aura pu se réaliser, on va enfin retrouver des insectes, donc essentiellement les larves d'éphémères plates, qu'on appelle aussi les heptagénéidés. Excusez-moi pour tout ce vocabulaire un petit peu compliqué.
Précis, ouais.
Et surtout, le symbole de la qualité de nos eaux, les plécoptères. Voilà.
Ça fait plein de mots savants à retenir.
Je vous inviterai justement sur le terrain à venir visualiser. Ça sera beaucoup plus simple en images.
Donc si j'ai bien compris, la présence ou non de ces êtres vivants vont influencer la qualité de l'eau directement sur le tronçon, enfin la rivière précise.
C'est plutôt la qualité de l'eau qui influe sur la présence de telle ou telle espèce.
D'accord, donc c'est l'inverse. C'est pas... les êtres vivants qui font que la qualité de l'eau est meilleure.
Ils vont participer
c'est peut-être à
l'améliorer. Voilà. Et donc, le type d'espèce évolue en fonction de la qualité de l'eau. Certains consomment ce qu'on va appeler pollution. D'autres ne la supportent pas et sont des bio-indicateurs, eux, de qualité. Donc, suite à une pollution, on a certaines espèces qui se développent. Et puis, ayant consommé la pollution, progressivement, ces espèces régressent et laissent la place à d'autres espèces qui, elles, ont besoin d'une eau pure, oxygénée.
D'accord. Donc, vraiment, c'est la rivière dans son ensemble qui possède cette espèce de super pouvoir auto-épurateur.
Oui, tout à fait. Puisque pour que cela fonctionne, il faut quand même une rivière qui soit en relative bonne santé, notamment dans ce qu'on appelle son hydromorphologie, c'est-à-dire son aspect physique. Donc c'est l'ensemble du bassin versant, c'est aussi les milieux naturels adjacents. Je pense entre autres aux ripisylves, les forêts de bord de rivière qui contribuent à tout cet équilibre. Le fait qu'il y ait des courants, des zones très variées, avec du gravier, des gros blocs, qui vont favoriser l'oxygénation de l'eau, car je vous rappelle que l'oxygène est fondamental dans la dégradation de la matière et donc la réalisation de l'auto-épuration.
D'accord. Donc ce super pouvoir auto-épurateur peut être fragilisé dans le cas d'un mauvais fonctionnement de la rivière.
Tout à fait. Une rivière qui va être artificialisée par des digues, mais aussi des barrages, voire des endiguements, va forcément perdre cette capacité à digérer les pollutions. Et donc, il faut absolument maintenir un cours d'eau le plus naturel possible et le plus varié pour que ce phénomène puisse venir contribuer à tous les efforts de notre société en matière d'épuration de l'eau. Une rivière qui est en bonne santé acceptera plus facilement la présence aussi sur ses berges de nos habitations, de nos activités humaines. Voilà, c'est un tout.
D'accord. Donc, finalement, tout super-héros a son point de faiblesse. On peut penser à la kryptonite pour Superman. Et pour la rivière, c'est peut-être l'humain s'il ne fait pas assez attention à l'impact qu'il peut avoir sur l'artificialisation de la rivière.
Oui, tout à fait, parce que la matière organique est une chose que nous produisons forcément, tous et toutes, de façon quotidienne. Mais cette matière organique est globalement assimilable par le milieu. Malgré tout, là où se posent les plus gros problèmes, c'est par exemple si cette matière organique est accompagnée de détergents et autres produits chimiques que nous utilisons de façon domestique, industrielle ou autre, qui vont bloquer littéralement le phénomène d'auto-épuration. Mais il y a encore pire. Les métaux lourds, par exemple, le plomb notamment, sont des matières qui ne sont pas biodégradables. Elles vont donc en fait s'accumuler à travers la chaîne alimentaire et risquer d'intoxiquer durablement l'ensemble de l'écosystème. Cela, la nature n'est pas capable de s'en défendre ni de l'absorber. Enfin, il y a une autre problématique avec un phénomène assez complexe qui s'appelle
l'eutrophisation.
L'eutrophisation, voilà. Et qui en fait est plus ou moins liée à l'auto-épuration. Alors, l'eutrophisation... Qu'est-ce que c'est ce truc ? Non, l'eutrophisation, en fait, c'est justement le fait qu'il y ait trop de matière organique et trop de matière minérale vont favoriser le développement, en fait, des végétaux aquatiques. Donc, notamment les algues, que ce soit des grandes algues ou des micro-algues, des phytoplanctons, parfois même des algues très dangereuses, telles les cyanobactéries. En fait, ces algues vont poser un souci et bloquer l'auto-épuration, puisque durant la journée, il n'y a aucun souci. Ce sont des végétaux qui font de la photosynthèse et qui donc
produisent de l'oxygène.
Mais la nuit, la photosynthèse va s'interrompre et être remplacée par un phénomène de respiration, comme vous et moi, où les plantes vont consommer l'oxygène de la rivière et dégager du CO2. À ce moment-là, effectivement, si le taux de plantes est vraiment trop important, on peut se retrouver au petit matin avec, que ce soit les petites bêtes, les insectes, les crustacés, mais aussi les poissons, qui peuvent être complètement asphyxiés et arriver à la mort.
Parce que les végétaux auront consommé tout l'oxygène.
Tout à fait. Donc l'eutrophisation, en fait, c'est un phénomène d'asphyxie du milieu naturel.
Ok. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'informations. En gros, on peut retenir là que finalement, c'est la dose et le cocktail qui fait le poison et qui pose problème dans ces histoires de pollution organique, finalement.
Oui, tout à fait. Et puis, le fait déjà aussi de protéger l'aspect de nos rivières, pour qu'elles continuent à ressembler à quelque chose de naturel. Je souhaiterais effectivement insister quand même sur le fait que l'importance d'un cours d'eau va jouer sur sa capacité à absorber tout cela et à s'auto-épurer. Donc forcément, les grands fleuves de notre pays ont de plus grandes capacités que nos petites rivières de Lozère, qui nécessitent donc toute notre vigilance et notre attention.
D'accord. Pour mettre tout ça en pratique, pour mettre les pieds dans l'eau, pour aller voir de plus près tous ces animaux dont on a parlé, donc rendez-vous le 20 mai à 14h30 avec Sébastien. Pour ça, on vous conseille vivement de réserver auprès du Réel. L'animation est gratuite, ouverte à tous, mais réservez auprès du Réel toutes les informations sur le site internet de 48FM.
On va faire ça. Et de façon juste plus large, est-ce qu'on peut se renseigner sur le festival ?
Sur la fête de la nature, ouais, sur le site de la fête de la nature, on retrouve toutes les manifestations qui ont lieu du 17 au 21 mai partout en France. Et on peut zoomer sur les manifestations propres à la Lozère qui se déroulent sur ce laps de temps. Voilà.
Parfait. Ben merci beaucoup pour cette très belle chronique. Merci à Sébastien et Muriel.
À bientôt.
Merci à vous et à bientôt au bord de l'eau.